Yasmine Boudaka nous a rejoint. Bonjour Yasmine.
Bonjour Laurent.
Avec vous, on va dresser le portrait aujourd'hui d'une exploratrice et ethnographe britannique qui a connu ses heures de gloire au 19e siècle avant de retomber dans l'oubli. Et pourtant, Yasmine, elle fait partie de ceux qui ont défriché un certain territoire africain et qui ont permis à la société de l'époque de mieux connaître la culture des peuples de l'Afrique subsaharienne. Alors elle s'appelle Marie Kingsley.
Marie Henrietta Kingsley, c'est une personnalité atypique, bourrée de paradoxes, que l'histoire a retenu, Laurent, pour plusieurs raisons. Parce qu'elle a effectué deux grands voyages dont les récits ont vraiment aidé à mieux connaître le continent africain en pleine colonisation. Pas vraiment d'un point de vue géographique ou territorial, c'est vrai, mais plutôt d'un point de vue culturel, sociétal et comportemental. Parce qu'il faut préciser qu'en Angleterre, à l'époque de Marie Kingsley, eh bien, on est au cœur de la période victorienne, une période de changement industriel important, une période où les scientifiques partent vraiment à la connaissance du monde et une période où le pays mène une grande politique d'expansion avec un volet colonisation assez intense qui trouve donc son apogée à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et c'est dans ce contexte donc que Marie Kingsley vient livrer son témoignage. Mais l'histoire l'a aussi retenue car ses voyages, eh bien, les a entrepris seule en tant que femme, alors que le volet des grandes explorations est quasi exclusivement masculin, et elle a donc aussi contribué à décloisonner les genres et bousculer les codes sociaux de l'époque. Et elle se définit d'ailleurs comme une femme de race masculine. Je vous propose donc d'évoquer le parcours de cette anti-héroïne avec Anne Hugon, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine de l'Afrique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est aussi spécialiste de l'histoire des explorations du 19e siècle. Et cerise sur le gâteau, c'est elle qui a traduit la version simplifiée d'un des premiers livres de Marie Kingsley.
Elle n'a pas du tout le look d'Indiana Jones ou Lara Croft. Marie Henrietta Kingsley porte la robe noire, très longue, avec collerette, manches bouffantes, petit chapeau et ombrelle. On l'imagine plutôt arpenter les trottoirs de Downing Street que la savane africaine. Et c'est bien connu, l'habit ne fait pas l'exploratrice, et c'est au Gabon et dans toute l'Afrique de l'Ouest que Marie use ses fonds de robe.
Elle est née à Londres d'une femme qui était domestique et de son employeur qui était un médecin. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une mésalliance. Elle naît en 1862 et ses parents se sont mariés peu de temps avant sa naissance, ce qui nous indique qu'ils se sont mariés pour respecter les conventions sociales. Cela dit, cette démarche lui a évité l'opprobre de la bâtardise, hein, et lui a permis de grandir dans un milieu relativement privilégié, puisque son père était un autodidacte, un savant de l'époque, avec une bibliothèque extrêmement fournie dans laquelle elle s'est elle-même formée à des tas de disciplines qui n'étaient pas particulièrement réputées féminines à l'époque où elle a grandi.
Et Marie Kingsley a tout le loisir d'explorer la bibliothèque familiale, car elle n'est pas vraiment scolarisée, Yasmine, on peut le dire. Et d'ailleurs, elle reste à la maison pour s'occuper de sa mère malade.
Bah oui, on va l'entendre, hein, Laurent. Marie Kingsley, c'est vraiment une femme pleine de contrastes et de contradictions. Et ça commence peut-être par le milieu dans lequel elle a grandi. À la fois, elle est très solitaire et peu sociabilisée car elle ne va pas à l'école et donc elle en sait peu finalement sur le monde extérieur. Mais grâce aux livres, elle va manifester une grande ouverture d'esprit. Et puis, il y a aussi ses oncles qui sont des auteurs de romans reconnus et qui vont lui offrir un environnement intellectuel assez développé. Et on peut se dire que finalement, c'est tout cela, malgré son enfermement, qui va contribuer à nourrir son appétit du monde et ses envies d'entreprendre ses voyages. Alors, ce que je ne vous ai pas dit encore, Laurent, c'est que les récits qu'elle a fait de ses voyages sont assez savoureux parce qu'elle raconte tout cela avec un humour et une autodérision sans pareil et tout à fait originale pour l'époque. Et elle disait d'ailleurs compenser par l'humour ses piètres attitudes sociales, car on l'a dit, elle n'était pas très à l'aise avec les autres humains.
N'empêche donc, elle sacrifie en quelque sorte sa jeunesse au chevet de ses parents. Et à leur mort, en 1882, Marie Kingsley touche une rente qui va lui donner envie de prendre le large et l'embarque pour le continent africain. Alors pourquoi ce choix, Yasmine ?
Il y a bien sûr le contexte des colonisations de l'époque, hein, mais elle dit aussi avec humour dans un de ses livres que l'Afrique, c'est ce qu'il y a de plus loin et de plus dangereux, donc ça vous définit un peu dans quel état d'esprit elle est. Et Anne Hugon, notre invitée, précisait également que Marie Kingsley, toute ethnographe en herbe qu'elle était, s'intéressait aussi aux religions primitives, hein, qu'on appelait le fétichisme aussi à l'époque, et d'où son envie de rencontre avec les peuples africains.
Alors son premier voyage est vraiment juste un voyage et pas une exploration au sens propre. Et elle parcourt pratiquement toute la côte sans s'enfoncer beaucoup à l'intérieur, entre la Sierra Leone, donc en Afrique occidentale, en étant d'ailleurs, en ayant fait une escale aux Canaries, peut-être, à moins que ce soit au deuxième voyage, et elle va jusqu'en Angola, à Luanda, qui est à ce moment-là déjà une colonie portugaise. Donc, ce sont des milliers de kilomètres, hein, si on regarde ça sur une carte, c'est vraiment, elle arrive pratiquement en Afrique australe, si vous voulez. Donc, c'est un très long voyage qui lui prend plusieurs mois, mais pour lequel elle reste quand même, je dirais, à la surface au sens propre hein, des choses. Elle ne reste jamais très longtemps au même endroit et elle ne s'enfonce guère à l'intérieur des terres.
Dans quel cadre est-ce qu'elle a mené ce premier voyage? Parce qu'on imagine qu'à l'époque, une femme qui décide de partir explorer des contrées encore inconnues, seule, ça n'est pas courant. Ça demande des moyens aussi. Donc est-ce qu'il y avait un cadre spécifique pour son premier voyage?
Alors, ce premier voyage, elle le conçoit comme un voyage, disons, de reconnaissance. C'est-à-dire, elle va tester sa capacité à voyager dans des endroits qu'elle ne connaît pas, qui sont extrêmement éloignés et très différents de ce qu'elle connaît. Rappelons qu'elle n'est jamais sortie d'Angleterre. Sa famille avait déménagé en province. Bon, elle a vraiment grandi dans un milieu, je l'ai dit, assez isolé et confiné. Et donc, elle a besoin de tester sa capacité à entreprendre un très grand voyage. Et en réalité, c'est un tremplin pour le deuxième voyage. Donc elle finance ce premier voyage de façon assez simple, avec son petit héritage, qui n'était quand même pas mineur d'ailleurs. Hein. On dit petit, mais c'était quelques milliers de livres en tout dont elle a hérité, ce qui fait une jolie somme à l'époque. Lorsqu'elle revient, elle est décidée à repartir plus longuement et surtout plus scientifiquement. Donc voilà, disons que le premier voyage est vraiment un voyage de reconnaissance et ça n'est que lors de son second voyage qu'elle va partir avec une mission scientifique qu'elle s'est elle-même donnée. Et disons que c'est à la fois vrai et faux, mais l'affichage qu'elle donne, c'est de dire qu'elle part en Afrique pour terminer l'œuvre scientifique de son père. Bon, évidemment, on ne peut pas aujourd'hui prouver la sincérité de cette assertion, si vous voulez, mais probablement c'est quand même une façade pour ne pas donner l'impression qu'elle nourrit des ambitions personnelles, ce qui pour une femme à l'époque n'est pas très bien vu. En revanche, dire qu'on termine l'œuvre d'un père, ça c'est tout à fait valorisant.
Au final, ce sont donc deux grands voyages que Mary Kingsley va entreprendre, Yasmine.
Le premier en 1893, le second s'étend entre 1894 et 1895. Et ces deux voyages donneront lieu à deux publications, Travels in West Africa en 1897, suivi de West African Studies en 1899, des ouvrages donc qui ont rencontré beaucoup de succès. Et Anne Hugon va nous expliquer finalement les raisons de cet engouement.
Alors, dans Travels in West Africa, c'est vraiment un mélange. C'est un livre inclassable du point de vue du genre littéraire, parce que certaines portions sont vraiment du récit type journal de voyage, avec des dates, des choses extrêmement précises, le détail de ce qu'elle a mangé ce jour-là, vous voyez, vraiment comme si elle publiait son journal de voyage. Et puis d'autres chapitres, au contraire, sont déjà une étude ethnographique où elle essaye de comprendre la logique et la rationalité des croyances religieuses de plusieurs peuples africains. Voilà, donc elle mêle aussi des réflexions sur le travail des missions, sur l'entreprise coloniale qui est en train de démarrer vraiment, si vous voulez, dans ces années, cette dernière décennie du 19e siècle. Et sinon, l'engouement s'explique également quand même par un contexte général. C'est-à-dire que bien sûr, il y a les mérites du livre qui expliquent son succès, mais il y a aussi une vraie attente du public dans cette dernière décennie du 19e siècle, puisqu'on est depuis le milieu des années 1880 dans un contexte où il y a ce qu'on appelle la course au clocher, cette rivalité européenne pour se tailler des parts du continent africain. Et du coup, le public est vraiment intéressé pour mieux comprendre et mieux découvrir ce continent. Il y a une vraie soif, une vraie curiosité, dont elle participe d'ailleurs, hein, mais qu'elle nourrit aussi à son tour, et qui explique ce grand succès de librairie. Elle avait pensé à signer un contrat avec l'éditeur Macmillan avant son second voyage. Macmillan, c'était l'éditeur qui publiait ses deux oncles. Donc là aussi, vous voyez, elle a quand même su utiliser son réseau.
C'est donc à travers ses ouvrages que le public découvre Mary Kingsley et ses aventures. On a bien compris que le livre Travels in West Africa est un objet hybride, mais ce qui en fait sa saveur, Yasmine, vous l'avez dit, c'est donc l'humour et l'autodérision dont elle fait preuve en relatant ce vécu.
Effectivement, c'est un récit sans complaisance où elle se moque vraiment d'elle-même. Il y a un décalage permanent, et ce qui peut surprendre finalement quand on regarde ses portraits, parce qu'elle a un aspect très austère. Mary Kingsley, elle est toujours habillée en noir, elle est visiblement assez réservée, mais ce qui est clair, et on l'a dit, c'est que son témoignage est totalement en décalage avec les récits que font les explorateurs de l'époque. Ce sont des militaires, des conquérants qui racontent finalement leurs faits d'armes. Elle, par contre, elle n'a pas peur de dire qu'elle a peur, par exemple. Elle le dit souvent, toujours bien sûr avec autant d'autodérision. Elle raconte ses mésaventures. Elle est sortie de marécages couverts de sangsues. Elle se retrouve sans eau en faisant l'ascension du mont Cameroun. Entre parenthèses, une ascension de plus de 4000 mètres d'altitude par une voie qu'aucun Européen n'avait encore empruntée à l'époque. Elle laisse d'ailleurs sa petite carte de visite au sommet du mont Cameroun. Elle a aussi séjourné dans la tribu des Fink, adepte de l'anthropophagie, donc des cannibales. Bref, elle a risqué sa vie à plusieurs reprises. Donc ce n'était pas des voyages de tout repos. C'est ce qu'elle raconte en tout cas dans son livre. C'est ce type d'anecdote qu'on va retrouver dans ses récits, où on apprend aussi beaucoup sur sa manière de voyager, comme nous l'explique Anne Hugon.
Alors, elle essaye de voyager relativement léger, ce qui lui permet une certaine mobilité à l'intérieur. Alors, relativement léger, elle a quand même toujours plusieurs porteurs, parce que malgré tout, elle fait transporter un lit de camp, des bâches pour se protéger de la pluie, des bocaux en verre et du formol, puisqu'elle veut aussi ramasser des spécimens animaux qu'elle souhaite conserver. Vous voyez, il y a quand même pas mal de matériel. Mais quelques porteurs y suffisent. Et elle voyage comme une commerçante, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'elle a bien compris que pour se faire accepter à l'intérieur des terres, il faut pouvoir offrir un certain nombre de biens aux villageois qu'elle va rencontrer. Et donc, elle se charge, comme le font les négociants de l'époque, de tabac, de tissu, d'alcool, d'objets en métal manufacturés, couteaux, haches, etc. Et elle va échanger ces objets contre, en fait, alors soit des spécimens que les gens lui fournissent sur place, de faune ou de flore, soit tout simplement contre l'autorisation de rester sur place quelques jours. Mmh. Voilà. Donc elle, c'est une négociante au sens de l'échange, si vous voulez, d'objets. Et puis c'est une négociatrice aussi. Et pour cela, elle a besoin effectivement non seulement de porteurs, mais d'interprètes. Donc elle est toujours entourée d'une ou deux personnes qui parle l'anglais, même si c'est un anglais spécifique à la côte ouest africaine. C'est un anglais qu'elle comprend, même si elle ne le pratique pas elle-même. C'est ce qu'on appelle le pidgin English. Et il y a toujours quelqu'un qui, sur place, comprend le pidgin English et va traduire dans une autre langue locale. Parfois, elle a besoin de deux ou trois interprètes, mais ça, c'est le cas de tous les explorateurs.
Quel accueil, elle a reçu dans cet entourage, dans cette population, en tant que femme et blanche, et finalement, je vais dire petite chef d'entreprise, de sa petite entreprise en tout cas.
Il semble que l'une des premières choses qui frappe ses interlocuteurs en Afrique, d'ailleurs qu'ils soient européens ou africains, c'est effectivement le fait qu'elle voyage sans homme. Alors, elle est restée demoiselle toute sa vie, célibataire. On ne lui connaît pas de liaison. Voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que elle se sent toujours obligée, mais je crois que c'est parce qu'on la met en demeure, de s'expliquer de son absence de mari. Donc c'est presque toujours les gens, hommes ou femmes, lui demandent « Mais pourquoi n'êtes-vous pas mariée ?» Alors elle a une réponse que j'aime beaucoup. Elle répond toujours que dans les guides de voyage sur l'Afrique de l'Ouest, dans la liste des articles indispensables à emporter, il n'y a marqué nulle part « mari ». Donc c'est comme ça qu'elle botte en touche. Et puis souvent elle raconte, hein, ça arrive à plusieurs reprises dans le récit, comment elle a juste coupé court à la conversation en faisant semblant de ne pas comprendre la question. Question qui est typiquement « Où est votre mari ?» Et en fait, elle joue du fait qu'elle est de toute façon tellement étrange dans les contrées où elle arrive que finalement, les gens la prennent comme elle est. Elle est étrange et elle se fait quand même accepter, si vous voulez, une sorte de tolérance à cette bizarrerie qu'elle incarne d'une femme blanche, seule. Et comme elle paye correctement ses porteurs, etc., elle n'a finalement jamais de difficultés ni à mener sa troupe, ni à trouver des accompagnateurs.
Au-delà du côté anecdotique de ces récits, Mary Kingsley pose également un regard assez novateur sur les populations qu'elle rencontre, Yasmine, novateur par rapport à la pensée dominante de l'époque.
Bah oui, dans Travels in West Africa, elle écrit notamment ceci: si les missions ont échoué en Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'elles n'ont pas pu percevoir les différences existantes entre leur esprit et celui des Africains, d'où une tendance à les considérer comme des cruches qu'il fallait vider de leur contenu pour les remplir avec cette doctrine très particulière que eux, les missionnaires, veulent leur enseigner. Et donc ce sont vraiment des considérations à contre-courant, en effet, comme nous l'explique Anne Hugon.
Je crois que la chose la plus singulière, c'est qu'elle essaye d'aborder les cultures africaines en ethnographe. Or, l'ethnographie est une discipline balbutiante encore à ce moment-là, mais dont quand même le postulat, si vous voulez, c'est de dire que toutes les cultures humaines ont peu ou prou leur rationalité, ou en tout cas une forme de logique. Et que ce qui est intéressant, c'est de comprendre, de pénétrer cette logique et pour l'expliquer. Alors, ça ne l'exonère pas de racisme pour autant. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que même les ethnographes et elles-mêmes, évoluent dans un contexte où le racisme est quand même prégnant. Néanmoins, on peut dire que sur une échelle des attitudes racistes de son époque, elle se situe quand même dans un niveau assez bas, puisque son propos, c'est vraiment de redonner aux yeux du public européen une forme de dignité aux cultures africaines. Mmh. Alors ça prend par exemple la forme d'une certaine critique des missionnaires qui, dit-elle, acculture les Africains en luttant contre ce qu'on appelle donc à l'époque le fétichisme. Et elle est assez opposée à cela. Alors ça ne l'empêche pas d'avoir de très bons rapports personnels avec certains missionnaires quand même, hein, il faut le souligner. Mmh. Donc elle aborde les Africains comme des êtres qui ne sont finalement pas si différents d'elle-même, puisque elle-même se sent toujours un peu en porte-à-faux avec la société dans laquelle elle a grandi. Ça aussi, c'est important. Le sentiment qu'elle a, elle, de n'être finalement jamais très à son aise dans la société victorienne ordinaire, fait qu'elle pense mieux comprendre les Africains que beaucoup de ses contemporains. Vous voyez ? Donc elle a une forme de sympathie et d'empathie pour les cultures africaines et pour les Africains, ce qui néanmoins ne l'empêche pas d'avoir des paroles parfois assez dures hein, sur les Africains ou même sur leur culture. Mais voilà, elle est assez opposée à ce qu'on peut appeler l'impérialisme culturel de son époque. Elle pense qu'il faut laisser les cultures africaines évoluer, si j'ose dire, naturellement, sans essayer de les modifier. Alors, l'une des querelles scientifiques de son époque porte sur l'unicité ou non de l'espèce humaine. Donc, s'opposent ceux qui affirment que tous les êtres humains descendent d'un ancêtre commun, ça ce sont ceux qu'on appelle les monogénistes, et ceux qui estiment qu'il y a plusieurs branches de l'humanité qui n'ont pas les mêmes ancêtres, ça ce sont les polygénistes. Or, elle s'inscrit en faux contre la théorie monogéniste, d'abord parce qu'elle-même n'est pas chrétienne, ça c'est quand même tout à fait rare à l'époque. Sans être athée, elle est plutôt, je dirais, panthéiste, c'est-à-dire que pour elle, Dieu est partout, ou quelque chose qui est de l'ordre du divin est partout. Et elle développe l'idée que les Noirs et les Blancs ne font pas, n'ont pas d'ancêtres communs et font en fait partie de deux branches de l'humanité différentes. Alors évidemment, scientifiquement, ça pose un problème, hein, parce que si deux espèces sont différentes, en principe, elles ne peuvent pas produire de descendance. Mmh. Or, on sait bien que c'est pas le cas chez les humains. Mais elle botte en touche en disant que c'est un petit peu comme les lièvres et les lapins. Ils se ressemblent beaucoup, mais en fait, c'est pas tout à fait les mêmes, si vous voulez. Alors, c'est intéressant de remettre ça dans son contexte, parce que pour elle, parler du fait que les noirs et les blancs ne seraient pas exactement les mêmes permet à la fois de dire qu'il ne faut pas essayer de transformer les noirs en blancs, sur le plan culturel, et donc de combattre l'impérialisme culturel. Mais on sent bien aussi que c'est quand même une position qui peut ouvrir la voie à un racisme beaucoup plus dur et beaucoup plus soi-disant fondé sur la biologie que la théorie monogéniste, vous voyez. Donc cette position qu'elle occupe dans ce débat me paraît aussi très représentative de son ambivalence toujours sur cette question finalement d'une hiérarchie ou non entre ce qu'on appelait à l'époque les races humaines.
Mais donc Yasmine, à cette époque victorienne, où les femmes n'ont pas réellement voix au chapitre, les observations de Mary Kingsley ont quand même eu un certain impact.
Mais oui, il y a eu le volet scientifique des voyages, hein, qui lui ont quand même permis de ramener quelques espèces jusque-là inconnues. Il y a d'ailleurs des poissons qui portent son nom. Mais par la suite, elle a aussi été conseillère informelle de Joseph Chamberlain, qui était le secrétaire d'État des colonies de l'époque. Donc elle a vraiment pu influencer les politiques coloniales de Grande-Bretagne. Et par rapport finalement à son héritage, c'est visiblement l'aspect ethnographique qui n'a pas vraiment convaincu les spécialistes de son époque.
Nous sommes donc à la fin du 19e siècle. Mary Kingsley est sous le feu des projecteurs grâce au succès de son livre Travels in West Africa, qui est donc réédité plusieurs fois. Elle donne des conférences un peu partout en Grande-Bretagne, pourtant elle n'aime pas être taxée de femme moderne.
Et oui, c'est ça à nouveau toute l'ambivalence du personnage, hein, Laurent, parce que quand on lit ses récits, quand on regarde un peu son parcours, elle donne vraiment l'impression de prôner une certaine émancipation de la femme victorienne de l'époque. Par contre, elle accepte, lorsqu'elle donne ses conférences dans une certaine société savante, de ne pas prendre la parole parce que les femmes ne sont pas autorisées à s'exprimer, et c'est donc un homme qui relate ses épopées, et ça ne lui pose pas de problème du tout. De même, lorsque le mouvement des suffragettes est apparu pour militer en faveur du droit de vote pour les femmes, eh bien elle y était fermement opposée. Mais donc, d'une part, elle transgresse les codes de genre, et d'autre part, elle maintient quand même un côté assez conservateur de l'ordre social. Quelle est la posture de Mary Kingsley finalement dans cette fameuse société victorienne ? Anne Hugon nous en dit plus.
On pense que le calcul qu'elle a fait, le pari qu'elle a fait, si vous voulez, c'est de compenser ses accomplissements assez extraordinaires par un discours plutôt conservateur sur les assignations de genre, hein, comme on dit, c'est-à-dire les rôles attribués respectivement aux hommes et aux femmes, comme pour se faire pardonner d'avoir tellement dérogé au rôle traditionnel féminin, si vous voulez. C'est comme si elle ne voulait pas en rajouter, et pour se faire finalement mieux accepter comme écrivaine, comme ethnographe, etc. En quelque sorte, pour être quand même prise au sérieux, elle garde un discours assez conservateur. Les suffragistes de son époque qui militent pour que les femmes aient accès au droit de vote comptaient beaucoup sur son soutien, puisque il semblait logique qu'après tout ce qu'elle avait accompli, après avoir montré qu'une femme pouvait faire des choses extraordinaires, eh bien, elle aurait pu soutenir le droit de vote des femmes, ou la lutte pour le droit de vote des femmes. Ça n'a pas été le cas, et elle estimait que l'urgence sur cette question, par exemple, c'était de s'arranger pour que tous les hommes aient effectivement le droit de vote avant de l'accorder aux femmes, par exemple. Vous voyez, bon. Donc, puisqu'il subsistait des formes de restrictions au droit de vote masculin à la fin du 19e siècle. Donc, elle est vraiment très conservatrice là-dessus. Mais il est bien évident qu'elle a quand même inspiré un certain nombre de réflexions de l'époque sur la place des femmes. Et je crois que vu qui elle était, elle ne pouvait que se satisfaire, peut-être en secret, mais d'avoir fait bouger les lignes, si vous voulez. C'est comme ça que moi je le perçois.
Selon vous, qu'est-ce qu'elle lègue vraiment Mary Kingsley aujourd'hui ?
Alors, quand on lui posait la question à elle, de quoi est-ce qu'elle était le plus fière, elle disait qu'elle était très fière d'avoir contribué à la science en ayant rapporté des spécimens de poissons jusque-là inconnus et d'avoir eu les félicitations du docteur Günther qui dirigeait la section d'ichtyologie au muséum en Angleterre et d'avoir appris à naviguer seule sur une pirogue galloise. Ça, je trouve ça quand même très drôle, mais évidemment, ça n'est pas ça que la postérité retient. Je crois que ce qu'on peut retenir d'elle, c'est qu'elle incarne très bien les ambivalences de ce moment fin 19e siècle où la colonisation est en train de se mettre en place, mais ça n'est pas non plus un long fleuve tranquille. La colonisation, il y a des critiques, il y a des révoltes, il y a des résistances, et elle-même a apporté des réflexions sur les raisons de toutes ces résistances à la colonisation, par exemple, hein, puisque elle-même se faisait critique de l'entreprise coloniale. Et puis, je crois aussi que, pour ce qui est de l'histoire des femmes, elle est l'une de celles, alors elle n'est pas la seule, hein, il ne faut pas l'oublier, d'autres femmes s'étaient lancées dans des explorations, y compris en Afrique, Alexine Tinée, et puis dans d'autres parties du globe, Isabella Bird, par exemple. Donc, elle fait partie de ces rares femmes, mais elle n'est pas la seule, qui ont montré que les femmes peuvent aussi entreprendre de grandes choses et sortir. Sortir, c'est le titre d'un chapitre que Michel Perrault a consacré à l'histoire des femmes au XIXe siècle. Et déjà, sortir de chez soi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand on fait partie de la bourgeoisie. Et ça, elle l'a vraiment magnifiquement incarné.
Mary Kingsley meurt en mission le 3 juin 1900. Elle est emportée par la typhoïde. Yasmine, elle n'avait que 37 ans.
Hein. Mais oui, elle est retournée par la suite en Afrique comme infirmière à Simonstown, près du Cap, pour soigner les Afrikaners blessés pendant la guerre des Boers. Et donc, c'est la maladie qui l'emporte. Elle a laissé donc 65 spécimens de poissons après ses voyages, 17 reptiles et puis bien sûr les deux grands ouvrages dont on a parlé. Un an après son décès, la Royal African Society est fondée pour honorer sa mémoire et favoriser une meilleure compréhension de l'Afrique au Royaume-Uni. Donc elle est vraiment retombée dans l'oubli à un moment et c'est depuis quelques années qu'on remet un peu ses écrits en avant et donc c'est toute la saveur de ces fameux bouquins. Juste vous préciser que Travel in West Africa a été traduit en français donc par Anne Hugon sous le titre Une odyssée africaine.
Anne Hugon, notre invitée, maîtresse de conférences en histoire contemporaine de l'Afrique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup pour ce voyage, Yasmine.
À bientôt.